On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Sylvia Kasparian. Au meilleur des cas, ça peut être des malentendus de la vie quotidienne que vous pouvez rencontrer avec vos patients ou bien à l'étranger, surtout à l'étranger. Au pire des cas, c'est le choc de civilisation, une idée chère à Samuel Huntington qu'il a lancée en 1996 et qui suscite depuis des remous et des passions. Il s'agit bien sûr de la mauvaise communication entre les gens, mauvaise communication verbale ou autre. C'est ce que va nous présenter aujourd'hui Madame Sylvia Kasparian, professeure de linguistique à l'Université de Moncton au Canada. Madame.
Bonjour. Merci pour votre présentation et je dirais que je suis très heureuse d'être présente ici avec vous à Beyrouth aujourd'hui et j'aimerais remercier pour cela Dr Georges Hayat qui est président du comité scientifique et ma Dr Myrna Wacket qui est présidente de la conférence pour m'avoir invité à donner cette conférence inaugurale sur une thématique connexe pour vous mais fondamentale à mon avis pour tout être humain dans son quotidien. Sociolinguistique, spécialiste de la communication interculturelle, je suis née au Liban, je suis aussi arménienne, française, canadienne. J'ai donc baigné dans des milieux multiculturels depuis mon plus jeune âge. Multilingue, j'ai très tôt comparé et réfléchi à ces différences culturelles et les relations langue-culture, langue, vision du monde qui sont différentes. Et les chocs qu'il peut y avoir entre différentes cultures. Donc la présentation que je vous fais aujourd'hui et s'inscrit dans le domaine de la pragmatique linguistique. La pragmatique est la branche de la linguistique qui s'intéresse aux éléments du langage, dont la signification ne peut être comprise qu'en connaissant le contexte et leur emploi. Très important de contextualiser nos interactions quotidiennes pour comprendre vraiment le sens des choses. Notre objectif, c'est de dégager les règles et principes qui sous-tendent le fonctionnement de tout type de conversation de la vie quotidienne. Bien sûr, ces règles ne sont pas universelles. Comme je l'ai dit, le contexte va déterminer ces règles. Et ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que la conversation se déroule sur deux niveaux. On pense toujours au verbal. Mais plus que le verbal, des fois, c'est le niveau relationnel qui entre en compte. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu. Et quand on parle du niveau de la relation, on va parler d'interaction. Parce que ces deux êtres qui interagissent ensemble, ce n'est pas juste des textes, des scripts qu'on partage, hein, contrairement à la conférence un petit peu ici, mais on agit l'un en fonction de l'autre. Et comme on agit les uns en fonction des autres, on a des faces qui sont en interaction. Et les faces exigent la politesse. Hein, parler, c'est un acte potentiellement menaçant, à la fois pour moi et à la fois pour la personne à qui je parle. Et c'est des atteintes à la face. C'est une autre façon de voir la communication, peut-être nouvelle pour vous. Mais c'est des faces qui sont vulnérables. Et il y a quatre faces qui sont en interaction quand je suis avec quelqu'un d'autre. Et l'idée de mise en scène vient de Goffman, c'est qu'on met en scène des faces quand on est en interaction. Et on met en scène des faces. Chaque individu aurait, selon Brown et Levinson, deux faces, une face positive, une face négative. La face positive, c'est le narcissisme, c'est l'image que j'ai de moi-même. Et la face négative, c'est le territoire du moi, territoire physique et territoire psychologique. Hein. Mes secrets, c'est mon territoire du moi, mon espace physique autour de moi, c'est mon territoire du moi. Et chaque fois qu'on est en interaction, on a deux faces, face à deux faces, vulnérables, qu'on essaye de ménager. On parle de face straightening act, acte menaçant pour les faces, et on parle, vous connaissez l'expression, perdre la face est une défaite symbolique. Mais on a aussi, on n'a pas que des face straightening acts, on a aussi des face flattering acts, qui sont les actes valorisants. Quand on fait des compliments à quelqu'un, c'est un FFA. Et quand on essaye d'atténuer un FTA, c'est-à-dire si je donnais un ordre, ça serait une atteinte à la face de quelqu'un, c'est un FTA. Donc, le principe de politesse va jouer un grand rôle et une pression forte dans nos interactions parce qu'on veut se ménager les uns les autres si on veut continuer à communiquer. Donc, la politesse est prise dans un sens très large, c'est-à-dire tous les aspects du discours qui sont régis par des règles et dont la fonction est de préserver le caractère harmonieux de la relation interpersonnelle. L'interaction est le lieu où s'affrontent des locuteurs soumis à la fois à deux pulsions, la pulsion de se faire mousser et la pulsion d'essayer de ménager la face de l'autre. Donc c'est une nécessité sociale, la politesse, et il faut trouver cet équilibre subtil de faire sa place et de ménager la face de l'autre en même temps. C'est vrai que dans toutes les cultures, les faces sont fragiles, on va les ménager, mais on les ménagera différemment. Et ce qui serait impoli dans une culture pourrait être poli dans une autre. Et c'est un peu cet aspect-là que je vais développer aujourd'hui. Et on va voir comment ça peut aussi s'appliquer dans la relation ou dans l'interaction médecin-patient. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier que quand on est en interaction, il y a plusieurs strates. On communique au niveau de plusieurs strates. Il y a la strate verbale, l'articulation du langage. Il y a la strate paraverbale, ce qui accompagne le verbal, l'accent, l'intonation, la mélodie. Hein. Je parle fort, je parle aigu, je parle très doucement. Voilà. Ça a un impact. Le non-verbal, c'est la stature, le look, la posture. Je suis recroquevillée, je suis droite, je suis petite, je suis grande. Ça a un impact. Et aussi, il y a une strate, c'est la strate émotionnelle. Alors, la strate émotionnelle, bien sûr, est un résultat des trois autres strates. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on communique au niveau de toutes les strates en même temps, même si on les décortique pour les analyser. Si moi, on me fait une offre, je dis non en m'approchant très près. Vous voulez un gâteau ? Non, mais je vais vers le gâteau. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que je le veux. Donc, il y a aussi des faux amis, c'est-à-dire si je regarde seulement le verbal, je ne comprends pas le sens réel de l'interaction. Donc toutes ces strates vont travailler en même temps. Et on passe notre temps à adoucir les FTA, parce qu'on sait que dès qu'on ouvre la bouche, on peut soit perdre la face, soit faire perdre la face à quelqu'un d'autre. Au niveau de la strate linguistique, vous savez très bien, souvent, je vais prendre des exemples assez banals pour que tout le monde puisse suivre. Il y a des thématiques dont on ne peut pas parler. Par exemple, souvent, on va dire, on ne demande pas l'âge à une femme. Bon, il y a des dictons comme ça. Il y a dans certaines communautés ou dans certaines sociétés, des thèmes qu'on ne peut pas aborder. On verra qu'avec les médecins, il y a des maladies dont on ne peut pas parler. Il y a des actes de parole qu'on ne peut pas faire, des critiques hein, dans certaines... alors on va adoucir, on ne peut pas insulter quelqu'un, on va trouver des euphémismes pour le faire. Donc voilà, là c'est toute une liste de procédés pour adoucir les FTA qui sont menaçants. On va minimiser, peut-être que je vais parler de trois qui concernent aussi les médecins, on reviendra là-dessus. Le fait de donner un énoncé préliminaire, par exemple, si on veut annoncer une mauvaise nouvelle, on va dire « mauvaise nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle à vous dire avant de dire la nouvelle hein? ». Donc ça, c'est des procédés pour atténuer le FTA, minimiser, c'est juste un petit rhume, un petit virus, hein, par exemple. Le modalisateur aussi. Je crois que, je pense que, j'ai l'impression que si je suis sûre, c'est trop fort. On va moduler un petit peu. Hein. Les désarmeurs, anticiper une réponse négative. On va dire, j'espère que tu ne vas pas le prendre mal, mais je suis obligée de te dire que tu as telle maladie, par exemple. Hein. Bon, il y a toute cette série de manifestations linguistiques qu'on utilise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pas appris à l'école. C'est appris à l'école de la vie. Quand on éduque un enfant, là, on était à Paris il y a deux jours, dans le bus, il y avait une maman avec un petit garçon, et le petit garçon voit un homme très court sur le trottoir et dit à sa mère, regarde maman en riant, il est tout petit ce monsieur. Et la mère lui dit, non, il ne faut pas dire ça, ce n'est pas gentil. Si c'était toi, tu n'aimerais pas qu'on te dise ça. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend les normes sociolinguistiques dans une communauté donnée, parce que ce ne sont pas les mêmes Et les enfants sont très forts là-dessus. Ils vont dire, ah madame, vous avez un bouton sur le visage. Hein, c'est très cru, c'est très direct. Puis tranquillement, on va leur apprendre que c'est pas bien, c'est impoli, c'est menaçant pour les faces. Puis on a des manifestations linguistiques de politesse positive comme les compliments. Hein. Vous savez qu'ici au Liban, on est dans une société qui produit beaucoup de FFA, hein, contrairement, j'y reviendrai là-dessus, beaucoup de remerciements, des litanies de remerciements. Hein. Merci beaucoup, merci mille fois, c'est vraiment pas pire, etc. On a ce genre de choses. Mais on a aussi des manifestations non linguistiques de la politesse. Et pour les manifestations non linguistiques de la politesse, au niveau du paraverbal et du non-verbal, on a je vais développer plutôt dans l'approche interculturelle ces deux strates-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'interprétation des FTA et des FFA va varier selon les cultures et les contextes. Au niveau des comportements paraverbaux, on va parler plus ou moins fort, on va parler plus ou moins intensément. La vitesse d'élocution varie selon un pays. Les Italiens, par exemple, parlent plus vite que les Français, relativement plus vite. Les Français, relativement plus vite que les Suisses, etc. Donc, on a des sociétés plus ou moins qui parlent plus ou moins plus vite que les autres. Et je vais vous dire pourquoi c'est important au niveau de la politesse. Et puis aussi, on a des sociétés qui parlent plus ou moins fort. Hein. Il y en a qui crient, par exemple, quand je suis en Acadie, dans mon coin de pays au Canada, quand les gens parlent fort, on dit tout de suite c'est des Québécois. Je ne sais pas s'il y a des Québécois dans la salle ou des Acadiens. On sait tout de suite que c'est des Québécois ou des Français parce que les Acadiens ne parlent pas fort. Puis, je vais revenir sur l'idée de la vitesse d'élocution tout à l'heure. Alors, comportements non-verbaux, aussi les schémas prosodiques, le fait de poser une question ou pas, dans une langue ça peut être une question, dans une autre langue ça peut être une affirmation, ça peut aussi apporter des malentendus. Maintenant, la proxémique est vraiment importante, savoir la bonne distance à adopter entre les interlocuteurs. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de voyager en Chine, en Asie, etc. L'accolade, la bise, ça ne marche pas du tout dans ces pays-là. Hein. Des pays où on se touche beaucoup, on se fait des mains, des baise-mains, des accolades, des embrassades. Puis des pays où on est très loin, on doit garder une distance. Et puis, la distance va du simple au double si on est dans des pays anglo-saxons. Ou chez les Cubains, par exemple. On se touche beaucoup à Cuba. Donc, c'est la distance, la fréquence des gestes, des attouchements, la durée des contacts oculaires aussi. Est-ce qu'on se regarde, hein? Est-ce que j'avais mis... Donc, il y a des sociétés à fort degré de contact, la Méditerranée, bien sûr, l'Europe, l'Amérique latine, des sociétés arabes et les sociétés à faible degré de contact, l'Europe du Nord, l'Extrême-Orient. Au niveau des comportements non-verbaux, il y a des sociétés qui gesticulent plus ou moins, qui font des mimiques. Et le sourire n'est pas toujours un contentement. Par exemple, au Japon, ça veut dire qu'on est enragé des fois. C'est qu'on contient une colère. Hein. Pareil, le regard, son orientation et la durée du contact oculaire. Fixer quelqu'un dans certaines communautés, c'est mal vu, c'est impoli, c'est effronté. Puis dans d'autres communautés, c'est vu comme une franchise, un regard franc, on va parler d'un regard franc. Et ça peut créer des malentendus. Je vais vous donner une situation qui est arrivée en Acadie. On n'avait pas beaucoup d'Africains. Quand on a commencé à avoir des enfants africains dans les écoles acadiennes, les maîtresses n'étaient pas contentes du tout parce que quand ils parlaient aux élèves, les élèves ne les regardaient pas dans les yeux. Alors, ils ont appelé... les parents, ils ont appelé les gens du district en disant « qu'est-ce qui se passe ? Ils me cachent quelque chose, ils ne me regardent jamais plus d'une seconde dans les yeux. » Jusqu'à ce qu'ils comprennent que, en fait, c'est une politesse en Afrique, c'est effronté de regarder dans les yeux de quelqu'un qu'on considère supérieur à nous. Alors, on regarde vers le bas. Alors, ça donne aussi des problèmes de ce style-là au niveau de... du regard. Bon, c'est vrai que selon les pays, par exemple, les Japonais, 13% en moyenne de l'interaction regardent dans les yeux. les Américains et les Coréens 33% et les Brésiliens 52%. Alors vous comprenez que pour les Japonais, un Brésilien qui les regarde 52% de l'interaction, c'est effronté, c'est impoli. Hein? Voilà, il y a ce genre de choses. Je vais passer rapidement parce que je sais que mon temps est limité de plus en plus. Alors, peut-être encore une chose sur les tours de parole et les pauses. Ça, c'est important pour la politesse parce que selon les cultures, la pause peut être minimale et les chevauchements aussi. C'est-à-dire, dans certaines cultures, chevaucher, ça veut dire parler en même temps que quelqu'un d'autre, est très mal vu, surtout pour les Allemands et les Anglo-Saxons. Pour les Français, chevaucher, ça veut dire, j'ai dit les Français de France, hein, parce que dans la francophonie, c'est très différent. Chevaucher, c'est montrer que la conversation est dynamique, qu'il se passe des choses, c'est génial. Tout le monde veut parler en même temps, c'est bien. On fait des petites pauses, on chevauche, puis c'est dynamique, on est content, il ne faut pas avoir de pause, on est mal à l'aise avec les pauses. Alors que pour les Amérindiens, on peut avoir une seconde de pause et même se rencontrer et pendant longtemps ne pas se parler que par des intermittences, c'est bien. Alors imaginez que des gens de deux cultures comme ça se rencontrent, pour parler, ils attendent que l'autre finisse, mais l'autre ne finit pas, ne fait pas de pause, la pause est très courte et il n'a pas le temps de s'insérer. Alors il est frustré parce qu'il ne peut pas prendre la parole. Donc ça génère ce genre de malentendu. Les gens pensent qu'on manque de politesse parce qu'on n'attend pas le temps de leur donner la parole. Voilà, bien des sociétés vivent juste par la coprésence physique. Okay, le chevauchement de parole, l'intrusion, plus ou moins bien tolérée. Voilà, pour les Allemands, c'est très agressif, insupportable et anarchique. Hein. Bon, peut-être un dernier point, je ne sais plus où j'en suis du temps. Terme d'adresse. Bon, je vais passer. Peut-être une chose intéressante au niveau des interculturels, au niveau des termes d'adresse. Les Japonais et les Coréens ont des... Il y a un système d'humiliatif. C'est des sociétés où la honte, la culpabilité sont très présentes. Et il faut toujours... en anglais, on appelle ça le self-humbling. Il faut s'écraser devant l'autre pour montrer qu'il est encore supérieur. Alors, on a tout un système d'honorifique humiliatif. Le japonais, par exemple, je, tu, il, nous, vous, il, les pronoms ont 6 variantes. On peut être grossier ou très, très, très poli avec soi-même, avec l'autre, la troisième personne, du singulier, du pluriel. C'est parce que plus je suis impoli avec moi-même, plus je donne, hein, j'honore la personne qui est en face. Alors, voilà encore des particularités. Au niveau de la formulation des actes de langage, on est plus ou moins direct. Si je prenais la requête, par exemple, il y a des choses qui ne se disent pas. Par exemple, nous, si on veut minimiser un acte agressif, impératif, on va dire « pourrais-tu, peux-tu fermer la fenêtre ?» Mais si en thaïlandais, on dit « peux-tu fermer la fenêtre ?», c'est remettre en question qui pourrait le faire. C'est très mal vu et c'est impoli. On va dire plutôt « aide-moi à fermer la porte » ou « vous auriez la pitié de ne pas garder la voiture devant la porte », etc. Bon. Je passe, il y a aussi des rituels d'ouverture et de clôture. Je pense que là, ici, vous connaissez ça parce que au Liban, les rituels d'ouverture sont très longs. Les salutations, il y a des rituels, comment ça va, comment va la famille, comment va on va jusqu'au village, les animaux, etc. Ça peut être long. Il y a des cultures comme ça en Afrique, en Égypte, par exemple, où les rituels d'ouverture sont, et les salutations sont très longues. Même il y a des variations, je pense en l'anglais, par exemple. On dit « could you please » or « would you please do something ». En Australie, « could you please » est grossier. « Would you please » serait la forme plus polie, par exemple. Hein, on voit bien que même dans les mêmes langues, ça peut être comme ça. Puis, un autre phénomène encore, dernière chose. Quand on dit à quelqu'un « bonjour, ça va hein, », c'est juste saluer la personne, signaler qu'on l'a vu, on ne demande pas sa santé. Mais ça, on ne pourrait pas du tout le dire. Par exemple, en Chine ou au Vietnam, Parce que la santé, c'est quelque chose de sérieux, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Par contre, on pourrait lui dire, as-tu déjà mangé, juste pour le saluer. Tu vas au marché, c'est juste pour le saluer, c'est ce genre de choses. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que selon les cultures, on en est où au niveau du temps?
On a encore 15 minutes.
Bon, ça va. Selon les cultures, ce qu'on remarque, c'est que ce qui est poli dans une langue, si je prends le continuum de la relativité de la politesse ici, si dans la langue B, on est plutôt du côté au milieu, du côté poli et impoli, si je prends la langue C, ce qui est poli en B est impoli en C, et ce qui est poli en A est impoli en B. Vous voyez que tout est relatif, et on ne peut pas dire que la politesse est universelle, elle est relative, hein. Donc elle est contextualisée, c'est important. Et à partir de ça, on a développé une typologie de style communicatif. On va dire qu'il y a des sociétés qui ont des axes sur l'axe de la verbosité qui sont plutôt verbaux, qui parlent beaucoup, comparés à d'autres sociétés qui parlent peu. Hein. On va décrire l'éthos communicationnel des sociétés comme ça. On va aussi décrire des sociétés selon la relation interpersonnelle, des sociétés qui ont des éthos de proximité versus distance. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Société à éthos hiérarchique ou égalitaire, ceux qui sont dans la relation plutôt de hiérarchie, et là vous connaissez en Inde, en Indonésie, les sociétés asiatiques, pour eux c'est des sociétés plus rigides et plus stratifiées où le respect des places a une valeur suprême, alors que nos sociétés occidentales recherchent, disons plutôt un idéal interactionnel qui serait plus égalitaire. Même si c'est pas toujours, mais les comportements très inégalitaires sont très stigmatisés du moins. Les sociétés à éthos plutôt que de consensuel versus conflictuel, il y a des sociétés où on ne fonctionne pas avec le conflit. En Acadie par exemple, même si c'est une communauté francophone, on ne peut pas critiquer ou dire son opinion qui est différente de l'autre en public. J'ai eu l'expérience de cela et j'ai payé pour 8 ans pour avoir fait. Donc voilà, il faut s'adapter, être à l'écoute de l'éthos communicationnel de la société dans laquelle on est et tenir compte de tout ça. Il y a la conception de la politesse. Est-ce que l'image de soi est plus importante ou c'est plutôt mon territoire, hein, dans les sociétés plutôt, anglo-saxonnes et occidentale, on est plutôt dans la politesse positive. Dans les sociétés très tolérantes envers la communication conflictuelle, c'est les sociétés camerounaises, les sociétés israéliennes. J'ai parlé du conflit, c'est ça, oui. Dans les sociétés israéliennes, souvent, la société israélienne est souvent citée pour la dispute qui est considérée comme un vecteur important de la sociabilité. Donc, le Cameroun aussi, les insultes sont fuse à tout bout de champ, partout, en public. C'est une société comme ça. Alors, politesse négative versus politesse positive, déranger le moins possible, adoucir les FTA, c'est le propre des sociétés moyen-orientales, latino-américaines, les Russes, les Polonais. La politesse positive, production abondante de FFA, des sociétés anglo-saxonnes et occidentales vont plutôt dire beaucoup merci, des remerciements, des flatter la personne, etc. Face positive versus face négative, préservation du territoire, c'est plutôt les sociétés occidentales, hein, le privacy qu'on entend, c'est important, alors que pour les sociétés dites de l'honneur, comme les sociétés arabes ou les sociétés de la honte, comme le Japon, faire bonne figure, c'est très important. Hein. Bon, ça c'est en gros pour vous donner les typologies des cultures. Maintenant, dans les 10 minutes qui me restent, peut-être 12 minutes, je vais essayer d'adapter un petit peu. Je suis sûre que vous avez déjà des idées, mais de parler de tout ça dans l'interaction patient-médecin. Parler est un besoin, écouter est un art, disait Goethe, mais n'est-ce pas aussi l'art sur lequel s'appuient les médecins pour comprendre et diagnostiquer, écouter. Aussi, il est inutile d'insister sur le fait que le rôle de la parole et de l'échange dans l'accomplissement du soin est vraiment important. Alors, les interactions patient-médecin n'échappent pas à ces règles. Elles s'inscrivent aussi dans ces normes sociolinguistiques propres à chaque contexte social. D'emblée, nous pouvons dire que l'interaction patient-médecin est un type d'interaction inégalitaire qui situe la relation sur l'axe vertical. La distance verticale est par essence dissymétrique car il y a une certaine inégalité entre les deux protagonistes de l'interaction, position haute bien sûr pour le médecin et position basse. D'emblée, dans cette structure-là, on va voir que dans les cultures différentes, même si on a cette donnée de base, les comportements peuvent être différents. Les pratiques interactionnelles dans cette situation de communication, bien qu'elles soient régies par des règles transversales aux cultures, présentent des particularités significatives selon le contexte. Le pays, la région, même dans une même culture ou pays ou dans une même langue, on remarque qu'il y a des différences. Voilà. Et puis ces variations culturelles peuvent mener à des malentendus, perturber le diagnostic ou encore rendre inconfortable la relation patient-médecin et générer de grandes frustrations ou chocs culturels. Alors là, on va examiner quelques exemples concrets que j'ai pris de mon vécu et de témoignages d'autres médecins pour illustrer quelques exemples de différentes strates, mais je compte sur vous pour me donner d'autres exemples après. Je suis sûre que vous en avez pas mal. Maintenant, au niveau des mots utilisés, on pense que parce qu'on est dans une même culture et une même langue, tous les mots et les expressions ou les rituels sont les mêmes. Ce n'est pas le cas. Et là, je vais vous donner l'exemple d'une expérience qui a été faite en Acadie, où j'habite. L'hôpital français n'avait pas assez de médecins acadiens, donc souvent c'est des médecins québécois et des médecins français ou de la francophonie en général qui viennent aider dans ces hôpitaux-là, qui sont embauchés. Puis il y avait une crise, les médecins ne comprenaient pas les malades. Alors ils sont venus voir les linguistes de notre département et ils ont mis ensemble un projet. Et là, ça aboutit à ce livre, Les mots pour parler des mots, lexique différentiel des termes acadiens liés à la santé, pour que les médecins puissent comprendre les malades. Alors, je vous ai mis trois mots, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ces mots-là, de la francophonie. Échauffure ou échauffaison, ça vous dit quelque chose?
Non.
Du tout. Alors, échauffure et échauffaison, si je le mets dans la phrase, il est mort d'une échauffure au poumon. Toujours pas?
Non.
Alors, inflammation aiguë ou chronique de la plèvre avec ou sans épanchement, pleurésie. Hein? Un autre mot, je vous en ai... Attendez. Sangoté. Si je mets... Il s'est engoté en mangeant du poulet. C'est peut-être plus clair, non? Étouffé, voilà. Ça, c'est plus clair. Alors, il s'est étouffé... Perdre la respiration parce que le larynx appelé gotte en Acadie est obstrué. Hein? Et un dernier, c'est cillement. J'entends des cillements quand j'écoute ses poumons. C'est un râle. Râle, bruit que fait la respiration d'une personne qui respire péniblement. Hein? Puis aussi, à part les mots, bon, ça c'est un exemple, il y a les compétences communicatives qui sont différentes des compétences linguistiques. Hein? Quand je suis arrivée il y a deux jours à Beyrouth, dans le taxi, on m'a fait remplir un bon. Et le type m'a dit, quand je passais la sécurité, ils m'ont dit « Alhamdulillah as-salamé » pour dire « bienvenue ». C'est une expression très poétique qui veut dire « bienvenue ». « Alhamdulillah as-salamé », pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe, c'est à peu près littéralement « c'est bien que tu sois revenu ». En santé, disons, globalement. Puis j'étais assez embêtée, comme ce petit chinois sur la photo, à dire, mais qu'est-ce que je réponds à ça? Il y a des rituels dans la communication. Quand on vous dit une expression, il faut répondre par une autre. Donc il y en a comme ça. Par exemple, si on salue, al salam alaykum, ou alaykum salam, par exemple, on répond. C'est plutôt un aller-retour, un peu. On sait que c'est des personnes plus religieuses, peut-être, quand c'est cette. Ou alors dans le taxi, quand j'ai rempli le bon, il m'a dit kelikzo. Kelikzo. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Kelikzo, c'est des. Tu as beaucoup de. C'est de. Comment on dirait? De goût, voilà. Tu as beaucoup de goût. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Voilà. Il y a donc il faut, il y a aussi des rituels, il faut être au courant de comment on répond à des situations. Ça, c'est toute la communication qu'on appelle les compétences communicatives.
Si vous voulez avoir une interaction, on a encore exactement 9 minutes.
D'accord, merci. Très bien.
Bon.
Alors, peut-être par rapport à ça, je vais prendre l'histoire des remerciements. Il y a des cultures dans lesquelles on ne remercie pas les proches. C'est impoli. Hein? En Inde, en Corée, au Japon, c'est insultant de remercier quand c'est des proches qui vous donnent quelque chose. Hein? C'est une insulte. Ce qui est un FFA dans une autre culture peut être vu aussi comme quelque chose d'insultant. Par exemple, au Japon, quand on dit arigato, qui veut dire merci, c'est très faible parce que pour eux, quand on veut vraiment remercier, la gratitude est indissociable de la culpabilité. Hein? Au Liban, on a aussi des rituels de clôture, de remerciement qui sont assez longs. J'avais écrit sur une feuille si je le retrouve.
Je peux vous poser une question qu'on est là. Et si quelqu'un a une remarque à faire, il y a un micro qui peut circuler entre vous. En attendant, est-ce que vous avez une idée comment les médecins de par le monde traitent avec les parents dont le patient vient de mourir? Quels sont les mots qu'on utilise?
C'est dans la suite.
Ah, voilà, allez-y.
C'est dans la suite. J'y arrive, mais j'aime bien que vous participiez aussi. Il y a tous les rituels. On va passer sur les rituels d'ouverture, de remerciement. Bon, c'est long. Vous savez qu'ici, on dit que ta vie soit longue, etc. Maintenant, je ne tombe pas dessus. Ok. Bon, on va passer tout à l'heure. J'aurai les phrases en arabe. Salam yadayak, Allah yirhamou, c'est pour le mort. Bon, bref. Alors, on va continuer. On va continuer les thèmes tabous dans la société. La mort, les maladies, et puis les conceptions des maladies sont différentes d'une culture à une autre. Par exemple, en Afrique et au Liban aussi, souvent, parler de la mort, c'est tabou. On va éviter de dire, il y a des formules, Tawal Amra, des choses comme ça. Vous les connaissez probablement, c'est certains. Allah Yirhamo, etc. Donc, c'est des formules. On ne dit pas directement qu'il est mort, mais c'est des formules poétiques qui vont faire savoir que la personne est morte. En Afrique aussi, c'est tabou. Puis pour les maladies aussi. Hein. Le sida en Afrique, c'est très tabou. Mon étudiant camerounais me disait que quand ils allaient pour donner du sang, ceux qui avaient le sida, on leur disait pas qu'ils avaient le sida, on leur disait qu'ils avaient la maladie qu'ils doivent se soigner. Hein. On leur disait pas qu'ils avaient le sida. Et ici, pour le cancer, on m'a donné deux termes pour le cancer. C'est... C'est deux termes pour dire le cancer. Maintenant, tout ça, ça va avec la conception de la maladie plus large. Hein. Au Liban, pour avoir discuté avec pas mal de médecins et moi-même, ma mère, le comportement de ma mère, quand je vois, la maladie, c'est une malédiction, c'est pas normal. Quand on est malade, c'est « yaharam », il s'est passé quelque chose, c'est « yaharam ». C'est pas normal, on le cache, on ne veut pas aller voir le médecin, et si on va voir le médecin, on ne veut pas écouter son diagnostic souvent. On est dans le déni de la maladie, on est dans la négation de la maladie. Ce n'est pas un phénomène normal, contrairement, disons, dans les pays occidentaux, on va voir le médecin, on prend le diagnostic, on discute, etc. Je vais vous raconter un épisode qui s'est passé avec un médecin libanais qui est oncologue chez nous, à Moncton, et qui est retourné au Liban récemment. Il y a une femme assez éduquée qui est pas médecin, mais qui est docteur en biologie ou je ne sais pas en quoi, à l'UBI, qui vient le voir. Et elle a le bien sûr le cancer, et lui il était gentil pour ménager sa face, il lui a dit qu'elle avait 2 ans à vivre. Pourtant c'était pas plus que 6 mois, mais il voulait adoucir un peu la pilule. Et la femme est partie, et pourtant elle a vu les analyses elle-même et pouvait voir les résultats, mais elle était dans le déni. 2 mois après, il va remplacer un autre médecin, un autre oncologue, et c'est cette femme qui est au rendez-vous et lui dit « Mais pourquoi tu n'es pas revenue me voir ?» L'autre médecin lui a dit « On va t'arranger ça, on va trouver une solution. » Alors que lui, il lui avait dit la vérité, à demi-mesure, disons, mais il lui avait dit la vérité. Elle a dit « Même si je savais, j'ai vu les résultats, je ne pouvais pas accepter. » Elle était dans le déni de la maladie. Et puis, c'est comme ça à tous les niveaux. Il y a un mensonge, quand je dis mensonge entre guillemets, qui est entretenu pour protéger les faces, à la fois du médecin, à la fois de la famille, à la fois du malade. On ne peut pas dire directement ce que la personne a, même si tout le monde le sait. Hein, c'est caché. Alors, on ménage les faces et on entretient l'espoir que tout le monde ait sa face protégée. Hein, il y a quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas qu'au Liban, en Afrique aussi, pour le sida, on ne dit pas directement à quelqu'un, on lui dit qu'il faut qu'il aille se faire soigner. Ça veut dire qu'il a le sida, par exemple. Bon, on en discutera plus longuement si vous voulez partager. Pour la mort, c'est pareil. La mort est... Et on ne va pas directement à la mort. Même quelqu'un qui est presque en train de mourir, le médecin va dire Tawal Ramro, que sa vie s'allonge, par exemple. Hein, on est dans toujours entretenir la face des gens et d'entretenir ce déni autour de la maladie. Bon, il y a quelqu'un qui veut partager? J'ai entendu quelqu'un là, non? Ok. Je vais finir avec ça, la relation médecin-patient. Hein. C'est une relation très verticale la plupart du temps, mais selon les contextes, il va y avoir de l'empathie. Hein. Dans certaines cultures, le médecin va même pleurer avec son malade. Donc il y a on manifeste des émotions et on partage les émotions. Et dans d'autres cas, comme vous voyez sur cette image, il y a des médecins qui veulent toujours garder cette distance de celui qui sait, le savant, versus le malade qui ne sait rien et qui font entretenir cette image du savant. Voilà, là, en utilisant des mots très compliqués, qui ne disent rien au malade, alors que dans d'autres cultures ou dans d'autres cas, il y a l'empathie d'un côté, mais d'un autre côté, il y a rendre le malade autonome, lui expliquer bien les choses pour que lui décide de la suite et comment il veut continuer. Ça, c'est, je veux dire, dans différentes cultures, c'est un peu comme ça. Ici, le médecin est vu comme un sorcier presque. En Afrique, le médecin est vu comme un sorcier dont on a peur. Au Liban, le médecin doit trouver absolument une solution. On dirait qu'on lui inflige le devoir de régler l'affaire. On lui fait confiance et il faut qu'il nous rassure. Hein, on lui donne ce mandat-là. On n'en a pas peur, mais on exige de lui qu'il règle la situation. Alors qu'en Afrique, ce qu'on m'a dit du Cameroun, par exemple, on a très peur des médecins. On les prend pour des sorciers qui peuvent nous faire du mal. Hein? Donc, vous voyez que les conceptions sont différentes. Donc, au niveau de la relation, ça peut être une relation paternaliste ou délibératrice, comme on l'appelle maintenant. Paternaliste, c'est le médecin qui a le savoir, etc. Bon, là, je passe parce qu'on n'a pas le temps.
Pour conclure, s'il vous plaît, on n'a plus de temps. On peut conclure?
Bon, on va conclure et ouais, on attendra d'autres. Il y avait un petit point sur la nudité et le toucher, qui, selon les cultures, qui est différente. Je vais juste finir avec ça. Par exemple, en Acadie, quand moi j'étais enceinte de mon premier, en France, on arrive, on nous dit déshabillez-vous. Puis, bon, je me rappelle ma fille, la première fois qu'elle a été voir le médecin en France, qui lui a dit déshabillez-vous comme ça, elle était toute paniquée. En Acadie, on se déshabille dans une salle, on met une robe, on nous donne deux draps, on couvre le drap d'en haut, le drap d'en bas. Puis quand le médecin va voir quelque chose, il va ouvrir juste le drap pour ausculter là où vraiment il doit regarder. C'est un peu pareil en Afghanistan. Quand ma sœur était médecin sans frontières en Afghanistan, c'était un drap avec un trou. Puis à travers le trou, il fallait regarder, on touchait ou on touchait pas le malade. Donc il y a aussi cette culture-là qui peut créer des problèmes, disons des frustrations, parce que c'est l'espace privé de la personne, c'est son territoire physique. Et si dans une culture, le territoire est large, on n'a pas le droit d'y rentrer. Hein. Donc je voulais rajouter ce dernier point, selon les époques, ça change, bref. Bon, je passe à la conclusion. Ce sont donc non seulement les comportements eux-mêmes qui varient d'une culture à l'autre, mais c'est passé déjà. Donc, mais les représentations qu'on se fait des choses. Donc, je pense qu'un homme averti en vaut deux. Donc, il vaut mieux bien prendre conscience des variations à tous les niveaux dans l'interaction au niveau des strates, à la fois linguistique, verbale, non-verbale, paraverbale, dans les cultures. Plus on connaît, parce qu'on a toujours l'impression que ce qu'on connaît est universel, mais plus on est conscient que ces variations sont fortes, plus on est à l'écoute et au lieu de juger directement et de porter des jugements, on peut voir les choses différemment et régler peut-être des malentendus. Donc seule une prise de conscience de l'ampleur de ces variations peut permettre d'éviter des désastres, ou du moins de les limiter, de lutter contre un ethnocentrisme encore tenace, qui bien souvent est révélateur d'une grave méconnaissance de la diversité culturelle. Et puis en ces temps de grande mobilité internationale où les médecins sont partout, que les gens, même ici, on a des gens des Philippines, de partout qui viennent là, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette connaissance-là. Et je vous remercie pour votre attention et pour le temps. Et merci. Je finis avec l'image de la fin au Canada. Quand on dit merci, on nous répond bienvenue. Voilà.
Merci, madame. Merci.